vagabondage. Une émission proposée par Thierry Margot, accompagnée de Cédric Dimos avec Tao à la technique. Balade intemporelle à la rencontre des gens, des choses, des musiques et des mots. Les temps sont durs pour la singularité artistique et pour tous les amateurs de chemins de traverse, nous les gens curieux de découvrir des univers de poésie et de virtuosité insoupçonnés, occultés bien souvent sous l'épaisse médiocrité médiatique moyenne, nous devrions chaque jour remercier ces poètes, musiciens, magiciens, jongleurs de notes et de mots qui de tout temps se relèvent et créent ces mondes, ces autres regards dont nous pouvons nous nourrir et nous enrichir. Humbert Humbert est de ces artistes dont l'invitation nous embarque hors des sentiers battus de la création, un chemin qui ne pouvait inévitablement que nous conduire vers ce vagabondage. En attendant de le retrouver, Humbert Humbert et sa contrebasse, il est venu, ils sont venus tous les deux avec Cédric, on va pouvoir lui poser toutes les questions du monde. Voici tout de suite un extrait du dernier album de Versari, l'ex-hurleur.
Regarde bien par la fenêtre, il faut y aller. Il faut se soumettre à ce test, à cette pensée. Il faut se soumettre à cette ombre, cette nuit passée, à cette angoisse qui nous encombre, nous fait tomber. Regarde bien par la fenêtre, par les allées. Regarde comme elle nous altère, nous reconnaît. Comme elle appelle à nos viscères, comme elle se plaît à faire tomber tous nos repères, à tout user. Regarde bien, regarde bien. Il n'y a rien à espérer.
Voilà le deuxième album de Versari, l'ex-hurleur, qui nous sort donc un album de temps en temps où on retrouve certaines approches de Tom Waits, Lou Reed, etc. Enfin bon, c'est un album assez sombre, comme sa pochette semble l'indiquer. Mais voilà, je vous laisserai le découvrir. En tout cas, ça reste, ça fait partie quand même des petites choses rares à aller découvrir. Hein. Donc, ne pas hésiter. Versari, donc ex-hurleur, deuxième album. Allez, à nous, Mathias Humbert, tu nous expliqueras un petit peu le pourquoi d'avoir doublé ton nom. Un jour, je t'ai vu, je te le disais tout à l'heure, un jour, je t'ai vu en concert. Cédric aussi, d'ailleurs, t'as vu dans un autre endroit. On t'a vu à tous les deux dans deux endroits différents. Et on s'est dit, un jour, il viendra ici vagabonder avec nous. C'est pas possible autrement, puisque ce que tu fais sur scène, c'est... Alors, on a reçu, mais on ne l'a pas reçu encore pour une émission complète. On l'a reçu en invité avec d'autres personnes. On avait reçu Yaros,
qui avait fait ta première partie.
On reçoit des gens qui viennent...
Voilà. Il n'y a pas si longtemps, ouais.
Voilà. Alors, on reçoit des gens qui viennent avec leur guitare, on reçoit des gens qui viennent avec leur violoncelle, et maintenant, on va de plus en plus gros, parce que c'est quand même pas commun, parce que toi, t'as une singularité, comme on le disait en introduction, mais tu as une singularité à plus d'un titre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent avec leur contrebasse.
Ouais,
il y a beaucoup sur le marché.
Il y a Fantasio, j'essaie de penser comme ça, oui, il y a Fantasio.
Avec plein d'instruments d'ailleurs autour de lui.
Oui, en fait, il a des spectacles vachement variés, donc il peut venir à 3, à 4, à 5, des fois à 6 ou 7, et des fois tout seul. Ouais. En général, c'est toujours singulier, comme tu dis, aussi. Ouais.
Ah ben Fantasio, en tout cas, c'est clair que voilà, encore un univers, c'est là qu'on revoit. Est-ce que Fantasio, c'est forcément un univers qui toi-même t'attire?
Moi, ce qui m'attire chez Fantasio, c'est pas tant son univers que vraiment sa singularité, justement. Tu disais être attaché à la singularité, et moi je le suis aussi particulièrement, quoi. Des fois, c'est pas forcément par goût pour une musique ou pour n'importe quel spectacle. C'est plus par le fait d'être étonné. Voilà, moi je cours un peu après ça. Ouais. Et puis dans ce que je fais, j'essaye de d'étonner le plus possible aussi, quoi.
Voilà, alors on est plus en VTT, on dirait on est dans le single track là. effectivement, c'est pas le grand chemin. D'ailleurs, tu nous emmènes quand même dans des endroits. Il faut vraiment vouloir y aller, et quand on y est, effectivement, on peut avoir de belles surprises, parce que c'est toujours quand on prend le risque d'aller dans des chemins qui a priori n'en sont pas, qu'on prend le risque de découvrir des choses qui nous sont étrangères, et de nous faire plaisir comme jamais on le serait fait si on avait suivi les grands chemins où tout le monde va. Et c'est en particulier en découvrant ton œuvre. Moi, je me rappelle, j'avais découvert ton premier album à l'occasion d'un concert de toi. Et c'est là que je me suis dit, quand même, un jour, on fera cette émission. Puis j'avais découvert ton deuxième album. Et dans ton deuxième album, ce qui m'avait donné l'urgence de me le procurer, c'est de voir que tu étais à coquiner avec quelqu'un qui est plus de ma génération, et je me suis toujours posé la question, et donc je vais te la poser.
J'aime bien les vieux.
Avec Klaus Blaskis. Alors, c'est quand même pas ordinaire d'aller... trouver Klaus Blaskis. Comment s'est fait la rencontre lors de ce deuxième album avec Klaus Blaskis, qui, pour le rappeler, était un des chanteurs choristes de Magma?
Ouais, en fait, il s'est avéré qu'il donnait des cours dans une école où j'avais gagné des prix, enfin un prix pour avoir quelques cours de chant, tu vois. Et c'était pas le seul prof. Mais bon, quand j'ai vu qu'il était là, j'ai pas hésité une seconde, et donc j'y suis allé. Après, on a travaillé. Et puis moi, j'y suis allé aussi un peu dans l'idée de... Enfin, je me disais qu'il me ferait travailler des trucs un peu barjots, tu vois, quoi, un peu... J'étais un peu parti chercher ça, et puis au final, il m'a fait travailler des trucs hyper techniques, parce que c'est un mec qui est super carré. Ouais. Dans sa manière d'aborder la musique et le travail, qui est vachement pointilleux sur la technique, quoi. Et donc on a travaillé beaucoup la technique, Et, ça m'a fait beaucoup, beaucoup progresser entre le premier et le deuxième album. Enfin, personnellement, je me rends compte assez fortement. Après, il est venu carrément. Donc, bon, j'ai fait ses cours avec lui. Et puis à la fin, j'ai enregistré mon disque. Donc, j'ai proposé de venir enregistrer quelque chose, quoi.
C'est une voix extraordinaire. Dans Magma, d'ailleurs, les fans de Magma dont j'ai été, quand il a pu être là, on a dit il manque une corde à l'arc du groupe, quoi, parce que c'était l'âme du groupe. On sait que c'était Christian Vander, mais Klaus Baski s'apportait par sa présence, d'abord sa présence physique, parce que c'est une bête, quoi, mais aussi par cette voix extraordinaire.
Ouais, moi, j'étais pas là pour m'en rendre compte, vu que c'était un truc qui s'est passé il y a 40 ans au moins, ouais. puisqu'ils ont fêté leurs 40 ans il y a 3 ans.
C'était dans les années 70, hein, c'est simple.
Et qu'il a fait les 11 premières années de Magma, voilà. En fait.
Alors, en fait, Magma, premier album en 1970, un double album.
Ah ben
ça,
voilà.
C'est rare.
Ben voilà. 43 ans.
Donc voilà, Kobaya.
J'étais pas né.
Univeriazek. Et donc effectivement.
Et Klaus est venu aussi travailler sur la mise en scène de mon spectacle du deuxième album, ouais. Donc ça a été une sacrée rencontre. Ouais. Puis bon, il est technique dans sa manière de travailler et puis il est complètement frappadingue tout le reste du temps, quoi. Donc c'est assez.
Donc, tu ne pouvais que
m'intéresser à lui. Ouais.
En tout cas, il n'y a pas de hasard. On dit le hasard n'existe pas.
Non.
Que vous étiez fait pour un jour vivre ce moment.
C'est sûr.
Gardez des contacts encore.
Ouais, on se voit de temps en temps. Il a une espèce de musée du micro en banlieue parisienne. Il est super branché son, vieux matos. Il a des centaines et des centaines de micros qu'il a tous exposés, tout ça. Puis il fait venir des gens.
Il faudra qu'on ait l'adresse.
Ouais. Et puis c'est ouvert, hein, c'est relativement ouvert. Il faut avoir l'adresse, quoi. Je me souviens plus.
On recherchera
en 93.
Regardez Klaus Baskis, musée du micro en Seine-Saint-Denis.
C'est ça.
Donc, aujourd'hui, tu viens nous présenter donc, ton troisième album.
Yes.
Donc, il y avait eu Débat debout, et puis Bou. Mais Débat debout, Bou, B-O-U-E, et puis Bou.
B-O-U-H, point d'exclamation.
Voilà.
Surtout le point d'exclamation.
Voilà. Et puis, alors, donc, ce fameux album dont on vient de parler. Et puis, aujourd'hui, c'est « Sois mort et tais-toi ».
Ah, ça rime plus
donc
du tout.
Donc, on est 2007, 2010, 2013.
Ouais, c'est ça.
Donc, un album tous les trois ans. C'est le temps de gestation de la création à Berimbert.
Il faut croire, hein, c'est vraiment pas calculé. Je fais tout ce que je peux pour écrire le plus possible et puis pour arriver à des choses qui me plaisent. Voilà, enfin, pour arriver à un certain nombre de morceaux qui soient enregistrables. Voilà, en plus, pour ce dernier album, j'ai carrément construit mon studio dans une usine dans laquelle je vis avec 9 autres personnes dans le Tarn. Et où on a... Donc, j'ai fabriqué mon studio, donc ça m'a pris une petite année en parallèle de l'écriture, à construire ce studio, quoi. Donc peut-être que si j'avais pas eu le studio à construire, peut-être que j'aurais mis que 2 ans.
Donc il faut être maçon, il faut être pour être aujourd'hui pour faire un disque, tu te rends compte tous les métiers,
artisanat.
Il faut surtout avoir envie.
Donc on va tout de suite écouter un extrait de cet album. Alors j'avoue que avant même de l'écouter, j'ai dit ça sera un des titres qui passera parce que rien que le titre sexe drogue et sexe drôle, merde j'y arrive pas, sexe drogue et girole, mais c'est parce que je l'ai trouvé drôle effectivement le titre. Voilà, il y avait Java qui avait fait sexe accordéon et alcool et donc à Berimbert c'est sexe drogue et girole. On écoute.
Ça a commencé par l'école, où ils te prennent par les cheveux. Si t'es content, si tu rigoles, ou si t'as l'air plus heureux que si t'es trop libre pour marcher. En rang pour les supermarchés. « Bien sûr j'ai suivi le troupeau en accumulant les zéros. Je broutais dans la catastrophe et la résignation des profs qui pleuraient devant leur impuissance à s'occuper des différences. Je comprenais que dans la vie, on faisait pas que ce qu'on voulait, qu'on se ravalait les envies, qu'on étudiait pour travailler et qu'on travaillait pour dormir, qu'on dormait pour ne pas y penser. Grandi en me demandant si j'étais pas fait pour me taire, me trouver un métier de gland dans le genre flic ou militaire. Mais il faut quand même un diplôme, celui de mouton minimum. Je voudrais bien me trouver un coin, une ferme, une île, rien qu'une fille et quelques joints, loin du vacarme de vos villes. Sans fric, sans flic, sans parole, du sexe, des drogues, des girolles. Sans fric, sans flic, sans parole, du sexe, des drogues, des girolles. Alors un beau jour j'ai craqué, mais pas du crack, du LSD. C'est moins dur et c'est moins vicieux. Puis je n'en vendais qu'à des vieux, de bons adultes consentants, qui rêve encore de temps en temps. Aujourd'hui j'ai plus rien à voir que des grilles avec des couloirs, et je n'ai plus rien à rêver que de l'ennui à en crever. Si je pense à vous avec envie, c'est de l'air pur, pas de vos vies. Me trouver un coin, une ferme ou une île, rien qu'une fille et quelques joints, loin du vacarme de vos villes. Sans fric, sans flic, sans parole, du sexe, des drogues, des girolles. Sans fric, sans flic, sans parole, du sexe, des drogues, des girolles. Sans fric, sans flic, sans parole, du sexe, des drogues, des girolles. Sans fric, sans flic, sans parole, du sexe, des drogues, des girolles.
C'était un extrait de l'album « Sois mort et tais-toi » de Humbert Humbert. Alors là, on vient d'écouter un titre. Tout à l'heure, je disais que dans le deuxième album, il y avait eu beaucoup de rencontres, beaucoup de musiciens. Cet album-là aussi, il y a quand même des rencontres. J'ai vu que, d'ailleurs, quelqu'un qu'on a passé la semaine dernière, Stephen Harrison, quand même. Un personnage absolument incroyable, extraordinaire.
J'adore.
Dont la rencontre était inévitable. Alors, aussi un contrebassiste. Moi, le contrebassiste que j'avais vu le plus fou devant sa contrebasse, que tu as rencontré, avec qui tu as joué aussi, c'était Pierron. François Pierron, le fils de son père. Et donc, bon, là, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit comment, si on devait le dessiner, on dessinerait un personnage entremêlé dans sa basse, quoi. Il est complètement plié dedans et on ne sait pas qui est de l'homme ou de la basse, ou de la contrebasse, quoi. Le deuxième que j'ai vu absolument fou comme ça, dans sa basse, à faire des choses, il la balance en l'air et tout, c'est Stéphane Harrison.
Mais c'est, voilà, dans des styles complètement différents.
Tous les deux complètement différents. Parce que autant l'autre, il est collé dessus, il fait corps, autant l'autre, de temps en temps.
Il la lâche, il la fait tourbillonner. Mais ouais, Stéphane, il est quand même vachement. Vachement branché sur le rockabilly, tout ça. Ouais. C'est un slapper incroyable, c'est un groover incroyable. François, il est dans le son, il est dans la mélodie, il est dans la...
Et puis il va chercher des sons dans sa contrebasse.
Bah ouais, carrément.
Il va chercher des sons dont on n'imagine pas qu'une contrebasse peut les donner.
Ouais, ouais.
Donc qu'est-ce que t'as apporté de rencontres? Parce que là, c'est des rencontres entre contrebassistes quand même.
Ouais, mais en fait, moi, ça fait des années, pour t'avouer quelque chose, ça fait des années, peut-être depuis le premier album, puisque le premier album, je l'ai enregistré, j'étais le seul contrebassiste, mais des contrebasses, il y en avait plein, parce que j'ai fait pas mal de heureux finalement, et j'avais un rêve, c'était d'enregistrer de tourner avec à trois contrebasses et éventuellement un batteur. Bon, mon idée en tout cas, c'était trois contrebasses. J'ai essayé des contrebassistes à droite, à gauche, tu vois, et puis bon, c'est jamais arrivé. Puis on n'a pas parlé de Bruno Chevillon,
ouais,
qui a enregistré sur le deuxième album sur trois morceaux, et puis sur ce dernier beaucoup plus,
ouais.
Quand j'ai fini par rencontrer Bruno, je pourrais vous raconter l'histoire de notre rencontre avec lui, mais bon, ça ferait un peu long si je raconte nos rencontres avec tous les bassistes que j'ai rencontrés, parce que comme je suis un peu focalisé là-dessus.
Quand même celle de Bruno, parce que là on parle de Stéphane, parce qu'il est présent dans l'album, mais c'est vrai que Bruno est omniprésent dans
Bruno,
cet album.
Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à écouter pas mal de musique improvisée, de jazz un peu, et je suis tombé sur un concert avec Marc Ducré en trio et Daniel Humer, et c'était de la musique pas forcément facile, et c'est un contrebassiste complètement hallucinant, Bruno Chevillon.
Et alors, justement, quand on a 15 ans, ou je ne sais pas quel âge tu as commencé la contrebasse,
dans ces eaux-là.
Et c'est pas forcément un âge où on va vers la contrebasse. Pourquoi et comment tu vas vers la contrebasse à cet âge-là?
Eh ben, en partie parce que tu vois un mec comme Bruno Chevillon faire des trucs, tu te dis putain, ouais. Enfin, moi je me suis dit c'est ça que je veux faire. Après, je me suis aperçu que j'en avais pas les capacités, parce que c'est un mec, un contrebassiste, c'est un virtuose, pas possible. Mais c'est comme ça que c'est arrivé, ouais. C'est en voyant des mecs comme ça. Donc j'invite.
Tu étais déjà musicien ou?
Ouais, je faisais de la basse électrique à ce moment-là.
D'accord.
En fait.
D'accord.
Voilà. Donc j'étais quand même branché sur les trucs un peu graves, sur l'idée de pas faire comme tout le monde, tu vois, parce que finalement les bassistes c'est un peu les pièces rares, tu vois, et puis c'est encore une histoire, cette histoire de singularité, quoi, qui me tient à cœur. Et puis Bruno, quand j'ai eu, donc là je me suis mis à la contrebasse, j'ai bossé un peu comme un taré, j'ai arrêté l'école en seconde à peu près quasiment à la même époque, et je me suis mis à travailler vraiment l'instrument pour avoir un métier, quoi, un peu, tu vois. Et puis quand j'ai eu 20 ans, je commençais déjà à savoir un peu jouer. Il faisait une masterclass impro libre solo de contrebasse à Béziers, donc j'y suis allé. Et puis là, il m'a retourné comme une crêpe. et puis là, il a fait un concert en solo de contrebasse, lui, en lisant des textes de Pasolini. Ça s'appelait Pasolini ou La Rage Sublime. Et puis pareil, ça continuait à me...
Déjà là, c'est une bonne source d'inspiration, parce qu'effectivement, de voir quelqu'un qui récite avec sa contrebasse, déjà,
Donc en 2005-2006, quand j'ai commencé à faire Humbert et que j'ai sorti mon premier album, c'était vraiment pas un hasard, tu vois. Ouais. C'était quand même un mec qui m'habitait depuis un moment, quoi. Après, il s'avérait que j'avais écouté beaucoup Renaud dans ma jeunesse et que la chanson m'accompagnait aussi. Donc finalement, j'ai relié un peu tout ça et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et j'ai écrit sur le premier album, je le remercie sur le premier album, ouais. Et je lui ai écrit un mail. Et puis il m'a répondu qu'il avait mon album et qu'il l'adorait et qu'il savait pas que j'avais éternué la valise, tu vois. Ouais, donc là,
génial,
un truc de dingue. Et puis du coup, je l'ai croisé après complètement par hasard quelques mois plus tard. Et là, je lui ai dit que j'allais enregistrer un deuxième album s'il voulait venir. Et puis il est venu. Et puis du coup, on tourne ensemble en plus maintenant. Tu vois, on a fait un certain nombre de dates ensemble. Il s'avère que je vais en faire un certain nombre avec François Piron aussi, du coup. Puisque Bruno est quand même beaucoup pris, il joue avec beaucoup de monde, il est allé à l'international, donc il est. Mais on fait un certain nombre de dates ensemble, et puis du coup avec François pour l'avenir.
Là, il fallait la raconter cette histoire.
Ouais, quand même.
Donc on va écouter tout de suite un extrait du deuxième album justement.
Ouais, tu veux que j'en parle parce que finalement.
Ouais, contre toi. Ouais.
Ouais, contre toi, c'est. Ce deuxième album, je l'ai enregistré avec un réalisateur qui s'appelle Jean Rochard et qui, alors, encore une histoire, c'est qu'il est venu me voir, ce Jean Rochard, qui est quand même un ponte du jazz et de la musique improvisée, qui fait ça depuis un certain nombre d'années. Il est plus vieux que moi aussi. Il s'avère qu'il a enregistré le premier album de Bruno Chevillon il y a 30 ou 40 ans, quoi. Ouais, je crois 30 ans, allez, pour... on va dire 30 ans. Et ils sont venus me voir tous les deux pour la première fois en banlieue parisienne. Il y avait 12 personnes, dont Bruno Chevillon et Jean Rochard. Quoi.
Ça, c'est joli.
Ah ouais, le grand stress. Bon, enfin, en tout cas, toujours est-il que ça leur a plu à l'un comme à l'autre et qu'ils ont travaillé tous les deux sur cet album. Et pour ce morceau que tu vas passer, là, contre toi, moi, je cherchais un mec qui serait prêt à faire un espèce d'arrangement électro. En même temps qu'il ne soit pas forcément non plus très attendu. Et donc il m'a proposé Benoît Delbecq. Et c'est vraiment Benoît Delbecq qui a arrangé le morceau. On a pris une journée pour faire ce morceau-là et j'en suis très fier.
Et vous jouez tous les deux dedans.
Donc, voilà.
On écoute.
Dessus, sans dessous de toi, jusqu'à ce que tu sanglotes, parce qu'on se tue quand on se boit. Les larmes dans la culotte, surtout n'aie pas peur si l'on s'évapore. Plus qu'à demi, parce qu'après cette petite mort, reviens la vie, vise un peu les traces que l'on se laisse, jusqu'au bord de nos yeux, sans qu'on se lasse, sans qu'on se blesse, sans qu'on soit vieux, envoie-moi toi en l'air en bas. Jusqu'au bord de nos vies, là où l'on meurt, surtout d'envie. Note ton cul me tient à cœur, et mon cœur se bat. Je te sens dessus, je te sue de joie, ou de jouissure, puis je déverse tout au fond de toi. Ma drogue dure, castan brûlant de l'intérieur, que s'envolent les oiseaux et s'étend se visant au cœur. À la peau, et si l'on s'attache à nos envols, on planera ensemble sans qu'on se lâche, sans qu'on se colle. Et sans contrôle, saigne-moi de tout ce sang qui cogne à mon bonheur. Je t'aime, toi, je t'aime tant que ton cul me tient à cœur et que mon cœur se bat. Corriger la mort, s'envoyer au nul et cracher dessus.
jamais repu, et si bien envie qu'on s'aime à l'envie, jusqu'à l'envie d'ailleurs, d'ailleurs beaucoup plus qu'un hymne à ton cul, car ton cul me tient à cœur, et que mon cœur se bat contre toi.
Et bien voilà, ça c'est vraiment un morceau qui s'emballe, on pourrait dire, hein, c'est vraiment un très 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 beau morceau. Alors il y en a plusieurs, hein, comme ça. Dans cet album-là, il y a aussi le titre. Alors bien sûr, il y a le morceau avec Klaus Baskis,
L'hymne à la vie.
Et puis Je te convie.
Qui t'a plu aussi, tu me disais.
Ah ouais, c'est vraiment. Si tu peux nous en parler un petit peu, on le passera pas, mais.
Ah bah celui-là, il est. C'est une chanson d'amour un peu. Ah voilà, l'amour du musicien, que c'est pas si facile que ça, tu vois, quand t'es sur la route tout le temps et que t'es un peu sentimental sur les bords, c'est pas forcément facile à
vivre,
à gérer.
Ouais. Écoute, tu vas prendre ta contrebasse, puisque t'es venu avec, et je sais que c'est pas si facile que ça, comme ça, de se déplacer avec un instrument. Je t'ai posé la question, mais tu m'as dit, écoute, de toute façon, j'ai l'habitude. Il y en a, ils promènent leur accordéon. Moi, j'ai fait le choix de la contrebasse, donc maintenant, j'ai pris l'habitude de me déplacer comme ça avec en ville. Et donc, voilà, tu es dans le studio aujourd'hui avec ta
Quel
contrebasse.
Quel bel instrument, quand même. Hein. Ouais. C'est incroyable.
Un vrai instrument en bois.
C'est donc, très impressionnant dans le studio.
Et qui fait du bruit. Et qu'il faut maîtriser. Combien d'années, à partir de combien de temps on commence à sortir les premières notes
Moi, je crois que c'est vraiment pas une histoire de temps, je crois que c'est vraiment plutôt une histoire de travail ou éventuellement de facilité avec l'instrument. Moi personnellement j'en avais aucune, donc il a vraiment fallu que je travaille il a vraiment fallu que je travaille, quoi. C'était du 8 heures par jour pendant 3, 4, 5 ans vraiment, et puis après et puis après
les crampes dans la main.
Voilà, éviter les crampes ou quand ça vient, faire une pause et puis recommencer.
Ouais. Allez, tu nous chantes quelle chanson ?
L'air con.
Allez, on écoute. Alors, ah oui, c'est vrai.
Ah là, si tu me files ton micro. Je vais y arriver. Crac, crac, boum, boum. Je suis perdu dans tes yeux qui me battent des ailes, qui font de l'ombre au bon Dieu, et des clins d'œil au soleil. Je vole à côté de toi, j'ai presque plus peur du vide, car ça brûle au fond de moi, d'un feu de joie dans le bide. Je bouillonne à petit feu, comme pour une insolation, je rougis. Je suis tellement amoureux que j'en ai l'air un peu con. Et tant pis. Je suis perdu dans ta bouche, comme une bouteille à la mer, comme un clodo sous la douche, comme un soleil en hiver. Je nagerai dans tes eaux jusqu'au comptoir de mes rêves. C'est ma langue sur ta peau, à l'abreuvoir de ta sève. Je me regarde la queue, comme ça avec les yeux ronds, l'air ravi. Je suis tellement amoureux que j'en ai l'air un peu con. Et tant pis. Je suis perdu dans ton cœur, mais alors là j'y vois rouge au tourbillon de ma peur. Du jour où faudra que je bouge, il paraît que plus on aime, plus ça peut nous faire du mal. Je vois là un sacré dilemme, mais tu me dis que c'est normal, qu'il faut profiter au mieux de la vie tant que c'est bon. Et moi je me dis que je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con. Et tant pis.
Je suis perdu dans ton corps. Lors en avant la musique et au placard les métaphores. Moi y en a vouloir qu'on nique. Tant que t'as compris que je t'aime, on va pas faire du chichi. J'ai du mal à mon poème. Mais moi t'aimer pour la vie. J'ai pourtant fait de mon mieux pour t'écrire une chanson trop jolie. Mais je suis tellement amoureux que je fais que des airs un peu cons. Et tant pis. Je suis perdu dans ton nez qui hume ma croupe et à l'occasion m'épée. C'est l'inconvénient du couple, mais j'y gagne au moins l'oubli de cette terre puante et de ce monde pourri. Sous les parfums de ton ventre, j'oublie d'être trop sérieux. J'abandonne ma raison à ton feu. Je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con, et tant mieux. Je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con, et tant mieux. Je suis tellement amoureux que j'en deviens un peu con, et tant mieux.
Donc voilà, c'était l'air con, extrait donc du dernier album, mais cette fois-ci en direct par le musicien.
Les gens qui nous écoutent n'ont pas la chance et le bonheur d'être là dans le studio, mais c'est vraiment incroyable.
À chaque fois que nous arrive ce moment du musicien qui joue, on se dit, il devrait y avoir dans chaque concert quelqu'un une chaise installée au milieu des musiciens. Pour au moins un spectateur.
Profiter, quoi. Ouais.
C'est parce que c'est pas pareil que d'être devant.
C'est une idée, ça, pour un spectacle.
Il devrait y avoir une chaise réservée pour quelqu'un, un fauteuil, quelque chose, mais il faut être au milieu des musiciens et il faut être dans ces conditions-là. Et nous, à chaque fois, c'est un pied, c'est pas permis. Même si les paroles de la chanson étaient assez explicites aussi sur ce qui concerne le pied, mais.
Pas que le pied. Pas que,
non, bien sûr.
Tout le reste du corps.
Voilà. Mais oui. Tu vois ce que je voulais dire.
Mais oui. On se comprend.
Mais voilà, c'est un moment, alors comme le disait Cédric, c'est vraiment à chaque fois pour nous un moment extraordinaire. Et alors là, bien sûr, avec en plus le volume de l'instrument, c'est...
La puissance de l'instrument, vraiment. Il y a grâce et puissance, quoi, c'est incroyable. Cet instrument.
Alors, comment te vient cette idée? Alors, tu en as un peu parlé, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais être un bassiste-chanteur? Enfin, comment, malgré... J'ai bien compris qu'il y a eu les rencontres et tout ça, mais à un moment donné, il faut se décider, il faut se dire, bon...
Ouais, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est encore une fois une rencontre de plus qui m'a fait ça. En fait, j'accompagnais un groupe. À l'époque, j'étais juste contrebassiste, puisque j'ai joué avec Jim Marple Memorial. Puis après avec De Rien, un groupe de chansons qui s'appelle De Rien.
Ouais, De Rien.
Et je crois bien qu'on était venu ici même avec eux, peut-être, tu vois. En tout cas,
Divergence. À l'époque de... Oui, avec Jean, peut-être. Peut-être. Jean Laguillonni, peut-être, qui vous avait fait venir.
Tu vois, ouais.
Ça parce que moi, De Rien, systématiquement, c'est les albums que j'ai, c'est ma discothèque.
Ah ben voilà. Et donc, en fait, on était en résidence avec ce groupe. Ouais. Et j'avais commencé à écrire des chansons. Je m'accompagnais à la guitare, en fait. Ouais. Je m'étais dit, bon, je m'accompagnais à la guitare. Je trouvais ça un peu nul.
Ton premier instrument, c'est la guitare ou
c'est la contrebasse. Non, c'est le piano, en fait, au départ. Bon, après... Voilà, bon, après je me disais la guitare parce que je voyais pas trop comment faire tout un tas de chansons à la contrebasse. Et j'étais censé faire la première partie de la sortie du deuxième album de Rien, puisque moi j'ai enregistré sur leur deuxième album.
Ouais.
Et à Paris, donc ma première scène en solo, c'était là, quoi. Et on a fait une résidence pour préparer ce nouveau spectacle. Et à la fin de la résidence où on avait travaillé avec De Rien, il y avait le metteur en scène, Olivier Husnet, qui m'a demandé de lui jouer un morceau pour voir ce que ça donnait, quoi, pour me filer, donner des conseils, parce que c'était quand même un peu osé, tu vois. C'était avec, il y avait du monde, hein, il y avait plein de professionnels, c'était chez Universal et tout, donc c'était un peu bon. Fallait pas déconner, quoi. Donc j'ai fait mon truc à la guitare, là, il m'a pris la tête pendant 2 heures sur comment fallait que je dise les textes, machin, machin. Voilà, je suis parti un peu dépité me coucher, et puis le lendemain, il m'a redemandé à la fin de la journée de faire de lui faire une chanson, et j'avais prévu sur 7 chansons d'en faire une à la contrebasse, parce que c'était voilà, et j'ai fait celle-là. Puis là, il est revenu la larme à l'œil, il m'a dit non, il y a rien à dire, fais-moi une autre chanson à la guitare. J'ai refait une autre chanson à la guitare, et il m'a repris la tête pendant 2 heures pour savoir comment fallait que je dise mon texte. Je me suis dit que ça cachait quelque chose. Et du coup, j'ai monté le répertoire à la contrebasse, en 15 jours. Finalement, ça s'est fait très très vite, un peu dans l'urgence, quoi. Et puis il s'avérait
et donc, à chaque fois que tu avais la contrebasse, il trouvait ça allait, quoi.
Il n'y avait qu'un morceau où j'avais la contrebasse, mais en tout cas, il était vraiment... Ouais, là, il avait... Alors, il était scotché. Bon, il était scotché. Et puis, en fait, ça a scotché pas mal de monde, hein, puisqu'il y a eu...
Et là, donc, ça a été pour toi le déclic pour te dire, j'ai quelque chose à... C'est ma voix, quoi.
Bah oui. Et en même temps, je te dis, c'était une évidence. Enfin, c'était étonnant que j'y ai pas pensé plus tôt, mais c'était une évidence. Il y avait eu Bruno Chevillon 5 ans plus tôt. Il y avait eu...
Mais c'est vrai que l'instrument, il est plutôt d'habitude, on le retrouve plutôt pour accompagner des groupes. La contrebasse, c'est celui qui fait la colonne vertébrale un peu du groupe. Il est toujours là, quoi. Donc c'est rare quand même, parce que tu as choisi quand même quelque chose de pas facile. Est-ce que quand tu composes, pareil, quand tu écris une chanson, parce qu'on dit bien une chanson, c'est pas un texte, c'est pas une musique, c'est les deux réunis.
Moi c'est très compliqué. Des fois je commence au piano, et puis je finis à la guitare, et puis je finis à la contrebasse. Des fois j'écris un bout de texte, et puis je me dis tiens, je vais faire une musique dessus, je la trouve au piano, et puis je finis la chanson, du coup je continue le texte, je finis la chanson au piano, puis après je la joue à la contrebasse, puis après finalement le texte me plaît plus, donc je garde la contrebasse avec la mélodie, avec la chanson finie, mais sans le texte, et j'écris complètement un autre texte. Au final, ça fait une chanson, donc ça peut être vraiment de plein de manières différentes. Ouais.
Donc on va écouter un autre extrait de l'album. Là, c'est Burke ou le vomi du bon Dieu. Alors,
avec le fameux Steven Harrison, justement.
Avec le fameux Steven Harrison.
Voilà.
On écoute, tu nous en parles après.
Ça marche.
J'entrais d'une fête merdique avec mon pote Thomas. On n'y avait pas moisi, on faisait l'after chez moi. Il me restait un cubi, on causait politique. À coup d'y a rien qui bouge quand je suis pris d'une vision dans mon ballon de rouge. Comme une révélation, je lui ai dit écoute un peu, c'est-tu pas merveilleux? Un message des dieux. Burke, Burke, à tout ce que tu sais. Burke, Burke, que je sais que tu sais. Burke, Burke, à tout ce que l'on sait. Où qu'on le met. Je me suis jeté sur mon verre. Ou peut-être bien que c'était le sien. En tout cas, j'ai tout bu. Ça m'a fait le plus grand bien. Un air m'était venu, ça me prend par le derrière. À moins que ça soit par le fion, alors j'ai pris la guitare d'un coup d'inspiration. De 3 coups de pinard, je lui ai dit écoute un peu, c'est-tu pas merveilleux? Ça se mêle au Dieu, et ça fait Burke, Burke, à tout ce que tu sais. Burke, Burke, que je sais que tu sais. Burke, Burke, à tout ce que l'on sait, où qu'on le met. Je me suis retrouvé aux chiottes. Ça tournait dans ma tête, comme si je tournais un clip à travers la cuvette. Je voyais le bon Dieu en slip, le scénario je te le rote. Ils se servent un pastis avec de l'eau bénite, c'était fait pour M6. Et je te dis pas le titre, un truc un peu fleur bleue, l'en faut bien un petit peu. et ça fait Birkenberg. Tout ce que tu sais, Birkenberg, que je sais que tu sais, Birkenberg, tout ce que l'on sait, où qu'on le met. Un en U, mais Dieu qui est intégriste, voulait pas se mettre tout nu. Il me dit t'as rien compris, c'est pour ça que je suis venu. Ta chanson, je te l'écris, un truc plus réaliste. C'est l'histoire d'un ministre qui ne boit pas de pastis, préfère le sang du Christ. Et pourquoi pas sa pisse, comme il est un peu triste. Il se sert de vos sous pour partir en vacances, il fait caca partout. Et s'essuie sur la France, je lui ai dit écoute mon vieux, t'exagères un petit peu. C'est vraiment trop dégueu. Birkenberg, tout ce que tu sais, Birkenberg, que je sais que tu sais, Birkenberg, tout ce que l'on sait, où qu'on le met, dans son cul. Un en U, un en U, dans ton cul.
Alors, on entend différents instruments. Alors, on parlait de singularité. Il y en a une singularité dans les instruments qui accompagnent ce titre. C'est la conque marine.
Ouais, ouais, la conque marine. J'ai demandé à Jean-Frédéric Herbetta, donc des Chevals, le groupe Les Chevals, de me faire un arrangement. De conque marine, ouais, de conque et puis de sax, il m'a fait ce machin-là, ouais.
Alors, conque marine, c'est une sorte de coquillage...
ancestral, je crois que ça se joue vaguement en Nouvelle-Calédonie, tu vois, mais c'est relativement peu joué, ouais.
Alors bon, un morceau bien enlevé, là, avec effectivement la patte de Stephen Harrison.
Le groove de Stephen Harrison, ouais.
Donc voilà, alors un album quand même qui se trouve du coup bien équilibré entre des titres comme celui-là, mais bien enlevé, puis des titres plus profonds. Plus... Alors toi, on parlait de Stephen Harrison, on a parlé de Pierron. Toi, entre ces deux personnages, tu es la sobriété. Quand tu es sur ta contrebasse, tu es le personnage le plus sobre des trois. Eux, ils ont une espèce d'exubérance chacun avec leur manière. Et puis toi, tu es plutôt posé sur ta guitare. D'abord, tu chantes, hein, les autres ne chantent pas.
C'est quand même pas mal dû au fait que je chante, parce que je m'aperçois que quand j'accompagne des groupes, comme un certain nombre...
T'es plus déchaîné.
J'ai plus de facilité à me déchaîner.
Alors que là, t'es bien, t'es posé contre ta contrebasse, juste comme si la tête sortait et tu déclines ton chant.
Là, c'est elle qui s'occupe de ma chanson, quoi, tu vois.
Ouais.
Elle est là pour mettre la chanson en valeur. Ouais, c'est ça.
Alors, dans les projets, cet album qui vient de sortir, dans les projets... à venir, il y a des rencontres prévues, il y a des choses.
Pour parler d'un spectacle qu'on va faire d'ailleurs le 18 juillet à la ferme marine aux Arresquiers, et puis le 19 je crois à l'Odève. Enfin, faut regarder ça sur le site du Printival Bobby Lapointe, puisque c'est un spectacle sur les chansons de Bobby Lapointe avec 5 autres chanteurs. Nicolas Jules, Evelyne Gallet, Thibaut de Fever du groupe Presque Oui, moi, et puis je vais en oublier, Yeti, enfin voilà, du monde, et on reprend que des chansons de Bobby Lapointe dans un spectacle assez barjot.
Il y aura
barjo.
Une trace enregistrée de ce spectacle.
Figure-toi qu'ils sont venus enregistrer dans mon studio à moi, que j'ai fabriqué
incroyable.
Justement.
Voilà, c'est un scoop.
Ouais, c'est un scoop, ouais. Et qu'il est en vente à nos concerts. Donc il est en vente nulle part ailleurs, mais à nos concerts, oui. Bon, il y a Dimonet, putain. J'ai oublié Dimonet.
Il n'y a pas oublié Dimonet ici.
Il vient de temps en temps ici.
Passion vagabondage.
Il ne va pas te louper.
Oh là là.
Donc je te laisse reprendre la contrebasse. Cette fois-ci, tu vas nous parler de Dame Misère.
Ouais, alors le temps quand même de que Mathias, tu prennes ton instrument, juste pour rappeler le nom de cet album qui s'appelle Sois mort et tais-toi, un album distribué par l'autre distribution. Voilà, et à toi.
À l'envie, à la
vie qui est belle comme une pute qui chante. Un air vieux recoulant de sagesse à l'oreille d'un fou. Au vacarme, aux tempêtes, aussi belle qu'une désobéissante. Qui ne cesse de nous montrer l'exemple en se foutant de tout. À ses secrets, à ses raisons de me taire. Au bruit que ça fait de laisser la parole au mystère. À l'envie, à la vie qui est belle comme une pute qui tire. Dans le crâne ruisselant de sueur d'un futur président. À l'humour, à la joie des mouettes contraintes de rire. De la mer qui se croit la plus belle au miroir du vent. À ses secrets, à ses silences idylliques. Au bruit que ça fait de laisser parler la musique. À l'envie, à la vie qui est belle comme une pute qui danse. Une valse aussi vraie qu'on en fait des promesses aux enfants. À la mort, à la faim, à l'oubli qui entre en résonance. Mais qui dure et qui dure comme on tient la foi entre ses dents. À ses secrets, à l'humilité des mots. Au bruit que ça fait de laisser le dernier au silence.
Et voilà ce morceau, voilà. Belle comme une pute.
Voilà,
ça va. Ça fait plaisir à
dire. Traduit comme dame.
Ouais, ça, c'est bien en bouche.
Donc, je l'avais décliné sous Dame Misère, puisqu'en fait, c'est le thème de cette chanson, une manière d'approcher cette misère, cette belle pute.
C'est La vie devant soi de Romain Gary, de Émile Ajar, qui m'a inspiré cette chanson, en fait.
Donc, la littérature, c'est un trésor pour toi. Enfin, c'est là où tu vas chercher ta source d'inspiration. Ou c'est un petit peu aussi, il y a l'actualité, il y a la rencontre.
Plus de littérature que d'actualité, ouais. Ouais. Bah, des gars comme Romain Gary, oui, ou Céline. Il y en a quelques-uns comme ça qui m'accompagnent de près.
Je vois Tao qui nous fait des signes. Ça veut dire que c'est bientôt c'est la fin. Deux minutes. Et bien, à ce moment-là, écoute. Franchement, ça a été un bon moment. C'est passé vite parce que toi, tu nous as raconté des belles histoires. c'est passé peut-être trop vite. En tout cas, tu sais que les studios ouverts, on avait eu l'occasion de discuter un peu pendant le Pratival. On te voit. Moi, je vous dis, achetez l'album de Humbert. Ça s'appelle Sois mort et tais-toi. Allez le voir en concert parce que si vous voulez voir quelque chose de singulier, on en a parlé. Si vous voulez voir une belle singularité, si vous voulez voir prendre de la poésie, cette poésie qui résonne dans les tripes et puis celle qui nous vient jusqu'au sens du frisson, c'est Humbert, il faut aller le voir parce que nous on a passé ce moment avec toi, avec ta contrebasse et ta manière de chanter où vraiment le frisson l'a eu, et puis je suis sûr que quand on se retrouve dans une salle, c'est la même chose. J'avais eu l'occasion de te voir, toi Cédric, t'as eu aussi l'occasion de voir.
Et ce merveilleux endroit qui s'appelle La Grange.
Ouais, et le meilleur moyen de rendre hommage et de faire plaisir, de se faire plaisir quand on aime le spectacle, c'est d'aller le voir vivant. Et donc, c'est Sois mort et tais-toi, c'est le titre de l'album. Mais c'est aussi.
C'est bien parce que je suis vivant que je peux me permettre de dire des choses pareilles.
Mais le spectacle, il est vivant et c'est là qu'il faut aller le voir. Et donc, n'hésitez pas à aller voir Humbert en concert. On écoute, on va finir avec en guise de générique, on va finir avec la chanson Vague à l'âme. extrait du dernier album, Humbert et Humbert. Au revoir et bon vagabondage.
Merci. Merci.
On a bravé des tempêtes, on a vécu ce qu'on a pu, on a bien rêvé le reste, on l'a servi, on l'a bu, on s'est partagé les nids, on a débranché nos télés, on a goûté l'infini, on s'est brûlé le palais, on a vendu des famines sur le grand marché des vautours, d'une justice assassine qu'on déglutit tous les jours. J'ai la tendresse en pétard, j'ai l'humanité des robots, j'ai le courage un peu tard et la conscience en lambeaux. Vague, vague à l'âme, mal à l'âme, vague, vague à l'âme. Fleur aux pesticides, du sourire au serment de main, on a vendu leur suicide à des paysans indiens. On a négocié des guerres, on en a profité un peu, on a monnayé nos frères au supermarché des dieux. Mais là, nos regards sont vides, nos consciences sont immobiles, on a la vie qui fatigue devant l'horreur qui défile. L'indifférence est infâme, la résignation est indigne. Les hommes et les femmes restent absorbés par les ruines. De leur propre vague à l'âme, vague à l'âme, mal à l'âme, vague, vague à l'âme.